6h02, lundi 9 décembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM avec un matin marqué par de la faible pluie. Ça tourne autour de 1 degré, ce qui fait qu'il y a un risque de pluie verglaçante par endroit pour lancer la journée. Et c'est vrai pour Montréal, le Grand Montréal, c'est vrai aussi pour Sherbrooke, Québec par exemple, avec un maximum qui est prévu aujourd'hui de 4 degrés. Ce soir et cette nuit, de la pluie intermittente, il y a un peu de brouillard à travers tout ça. Les vents sont légers et ce que l'on note, c'est que le mercure va grimper durant la nuit pour atteindre 7 degrés. Demain mardi, de la pluie avec un peu de neige au cours de l'après-midi. Encore là, pas d'accumulation, mais les vents pourront compliquer un peu la vie des automobilistes. Des vents jusqu'à 70 km à l'heure et on prévoit un maximum de 9 demain, après quoi ça tombe. C'est vraiment un yo-yo, c'est-à-dire autour de 1 degré en après-midi. Alors que pour mercredi, milieu de semaine, soleil, nuage, 60 % de probabilité d'avoir un peu de neige et un maximum de moins 3. Finalement, le retour du soleil qui est prévu pour jeudi à moins 9 degrés. Donc, vous voyez, on a des journées à 9 et dans la même semaine, moins 9. Donc, des variations importantes. C'est pour ça aussi que c'est assez difficile de prévoir la forme des précipitations. Ça peut être de la pluie tout court, ça peut être de la bruine verglaçante, de la pluie verglaçante ou encore par endroits. Également certains flocons de neige. Bon, dans l'actualité ce matin, beaucoup de choses. Peut-être revenir sur la Russie. C'est tombé, là, c'est tout chaud. Banni de compétition internationale pour 4 ans. Et ça comprend les Jeux olympiques, évidemment, mais toutes les compétitions internationales. On va avoir les précisions tantôt. Mais comme le disait Alain, on pense que ça veut dire que les athlètes vont compétitionner avec le drapeau olympique et non pas celui de la Russie pour les représenter. La Russie regarde le CIO avec, et l'agence antidopage, là, avec un certain mépris. D'abord, on a tellement nié les cas de manipulation. Rappelons-nous de ce Russe qui a déserté vers les États-Unis, qui est devenu un collaborateur pour expliquer comment on déjouait les plans, comment on déjouait les contrôles, avec plus ou moins de succès. Combien d'athlètes nous ont dit, écoutez, on n'a pas vu des gens performer pendant une série de compétitions internationales et soudainement, ils arrivent aux Jeux olympiques. Ils ont l'air boostés aux produits chimiques et remportent des médailles ou en tout cas compétitionnent et éclipsent les autres. Puis quand vous demandez aux Russes, voulez-vous nous livrer, s'il vous plaît, l'ensemble des échantillons qui ont servi pour les tests et que tu présentes des faux échantillons. T'sais, il y a comme une espèce d'arrogance. Et là, est-ce que ça dérange les Russes à ce point d'être bannis pour 4 ans? Bonne question. Est-ce qu'ils vont changer leur pratique? C'est une autre bonne question. Chez nous, maintenant, on va vous présenter tantôt le premier volet d'un reportage sur les gens qui habitent le secteur de Deux-Montagnes. Et je pense que c'est important. Plusieurs m'écrivent. Plusieurs nous écoutent. Et devant ce qui s'en vient à compter du 6 janvier, il y a différentes façons de réagir. Qu'est-ce qui s'en vient dans le fond du 6 janvier? C'est que le temps de déplacement va augmenter de façon considérable. Pour bien des gens, c'est au minimum le double du temps, le matin et le soir pour le retour. Comment tu gères ça? T'sais, je sais qu'il y a des groupes qui s'organisent, qui font des pétitions. Malheureusement, je ne veux pas les décevoir, là, mais c'est pas vrai que le REM va renoncer à ce chantier qui va durer au bas mot 3 ans. Puis il y a d'autres impacts ailleurs. Donc, comment tu t'organises? Il y a des gens qui le prennent avec philosophie, qui se disent, je vais voir comment le transport en commun va s'organiser. La Société de transport de Montréal a loué 50 autobus. Je rappelle que le mois de janvier est un mois de cauchemar pour la Société de transport. Il y a un paquet d'autobus qui demeure au garage chaque matin. C'est vrai depuis l'automne, là, mais ça risque d'être encore plus vrai au mois de janvier. On est supposé avoir des nouveaux autobus qui vont entrer graduellement. Donc, on promet une mobilité puis un temps de déploiement quand même efficace. J'ai des doutes, vous êtes sceptiques, vous êtes cyniques, on verra bien. Sauf que les gens qui vont devoir vivre ça au quotidien, ben, un, se disent un peu zen. D'autres disent, je vais prendre mon auto, mais on connaît l'impact sur les voies, je vais dire rapides, là, mais qui vont être pas mal au ralenti. La 13, entre autres, qui est déjà grandement affectée. L'impact sur le métro, la ligne orange. Alors, ce matin, on va vous présenter des cas de gens qui ont décidé, devant une situation extrême, de prendre des mesures extrêmes. Plusieurs ont décidé de déménager. La décision est prise depuis un certain temps. Des gens qui ont décidé aussi de précipiter la retraite. Ils vont perdre l'argent, mais ils n'ont pas envie de vivre ça. Ça ne leur tente pas. D'autres qui décident carrément de se louer parce qu'ils ont les moyens, un appart pour la semaine. Un étudiant de McGill qui va déménager avec sa grand-mère de 80 ans du lundi au vendredi parce que ses parents ne peuvent pas payer puis il n'y a pas les moyens non plus d'avoir un logement en ville. Et d'autres qui se cherchent actuellement des logements, puis Dieu sait que ça coûte cher, trouver un logement en ville. Et c'est beaucoup d'anxiété, c'est beaucoup de tracas. Déjà que c'est pas simple, mais la conciliation, là, on essaie de nous faire croire que c'est réaliste, possible tout le temps, la conciliation travail-famille. Dans ce cas-là, là, c'est clair que non. C'est clair que des gens vont devoir ajouter des heures et des heures à une semaine déjà remplie. Ils vont arriver plus tard chez eux, ils vont être écœurés. Les enfants vont souper plus tard, puis les devoirs, monde se couche, on se lève de bonne heure parce qu'il faut calculer le temps. Tu sais, ça va être comme ça, là, puis c'est comme je le dis, c'est pas une période désagréable de quelques semaines. Ça va durer comme ça plusieurs années, au moins 3 ans. Donc, on va y revenir tantôt. Il y a un dossier intéressant ce matin sur les faillites dans la presse. Alors, c'est un dossier d'enquête dirigé par Katia Gagnon qui sera avec nous tantôt. Qu'est-ce qu'on découvre? Et ça, là, c'est peut-être l'élément le plus intéressant. C'est de... Tu sais, faire faillite, c'est une affaire, là. Mais faire faillite à répétition, c'en est une autre. D'abord, qui sont les deux principaux créanciers de ces cas de faillite individuelle? Revenu Québec et l'Agence de revenus du Canada. Et ce qu'on voit comme chiffre, là, année après année, le Québec est champion des faillites à répétition. Depuis 10 ans, le Québec a 43 % des cas de deuxième faillite. 58 % des cas de troisième faillite, 74 % des quatrièmes et 90 % des cas de cinquième faillite. Et vous avez à travers ça des bougons, des gens qui s'organisent pour justement vivre de faillite en faillite. Et je dirais, c'est comme une espèce d'héritage génétique qu'on se transmet. On raconte l'histoire de l'ex-comptable Jacques Bélanger, sa fille Evelyne, et également l'ex-conjoint de celle-ci, qui sont probablement, et je cite la presse, la famille royale de la faillite. Et donc, ces gens-là, là, puis il faut lire l'article pour s'apercevoir que, tu sais, ils ont toutes sortes de scénarios, puis ils savent comment gérer ça. Ils deviennent des experts assez rapidement. Mais qu'il y ait des bougons, la nature étant ce qu'elle est, mais ce qui est frappant, c'est de voir la facilité avec laquelle ces gens-là peuvent faire faillite. Peu d'impact, quelques mois de prison, ils en rient quasiment. Et les juges qui disent « qu'est-ce que vous voulez? » Il n'y a personne qui se présente devant nous, on n'est pas des juges enquêteurs. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse travailler plus solidement les dossiers et obtenir, disons, des sentences plus fortes? En résumé, ça semble, d'après ce reportage, assez facile de faire plusieurs faillites au Québec puis de retrouver du crédit à chaque fois. Les experts du secteur, donc des syndics, des conseillers budgétaires, des avocats, des juges, n'en reviennent pas. T'sais, c'est vrai que tu n'as pas vu ça, ces chiffres-là. Les faillites personnelles privent les gouvernements de beaucoup d'argent. Alors, Revenu Québec dit avoir effacé des créances de près de 2 milliards pour des contribuables et des entreprises. Pour Canada, c'est le double facilement. Et ces faillites répétées font que des gens comme ça peuvent repartir de différentes façons. Alors vraiment, là, à lire ce matin, et Katia Gagnon sera aussi avec nous. 6h11, un petit coup d'œil sur ce début de journée, monsieur. Merci beaucoup. 6h12, bâillon en fin de semaine pour faire passer la loi qui, d'un côté, retourne aux Québécois, donc 500 millions, la loi 34, mais surtout, parce que c'est ce volet qu'il ne faut jamais négliger, fait sauter les prérogatives de la Régie de l'énergie du Québec pour les prochaines années concernant la hausse des tarifs de Hydro-Québec. Et là, c'est sûr que le gouvernement nous dit, regardez, là, on vous l'a promis, puis on vous retourne 500 millions, puis pour l'année prochaine, c'est un gel des tarifs. D'abord, on n'est pas dans ce qu'on appelle l'horizon promis par la CAQ en campagne électorale, là, on n'est pas dans le retour aux Québécois du 1,5 milliard de perçus en trop. Deuxièmement, ce qu'on nous annonce, c'est l'inflation. Or, quand vous regardez les augmentations de tarifs des 10 dernières années, 7 années sur 10, c'était en bas de l'inflation. Et là, je sais que le gouvernement joue avec la période dans le temps. Facile. Tu dis, il m'a prendre un certain nombre d'années pour dire, regardez, la preuve que c'est une bonne décision. Mais dans les faits, de payer l'inflation, ça veut dire qu'on va payer plus cher. Autrement dit, l'augmentation, pas l'année prochaine parce que c'est un gel, mais après ça, puis là, je sais qu'ils vont faire des calculs, puis ils vont dire, regardez, la preuve. Bon. Hydro-Québec va aller chercher de l'argent de plus dans vos poches. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, c'est quand même la réalité quand on compare avec les 10 prochaines années. Entre-temps, le premier ministre Legault est en Californie. Et là, il y a des rencontres de prévues. Hier, il a passé du temps avec Luc Robitaille, des Kings de Los Angeles. Et là, il veut amener les joueurs de l'industrie, du cinéma, puis des séries, Disney, Sony, Netflix, enfin les géants, à faire plus de tournages au Québec. À Montréal en particulier, mais au Québec en général. Il y a déjà des crédits d'impôt qui existent. Ça fluctue beaucoup d'une année à l'autre. Michel Trudel, que je connais bien, qui opère le studio Mills, travaillait avec le commissaire du cinéma à Montréal pendant des années pour aller chercher des productions. Puis Montréal a réussi à se monter quand même un bon carnet et également une excellente réputation. On n'est pas tout seul à offrir des avantages. Toronto le fait, Vancouver le fait. C'est sûr que le taux de change est un facteur important. Mais vous avez d'autres villes en Europe qui offrent finalement des packages financiers intéressants. Parce que ces studios-là, premier critère, c'est combien ça coûte, là. Puis est-ce qu'on peut créer à Montréal, pour moins cher, un décor européen, pensons au Vieux-Montréal, est-ce qu'on peut créer des grands espaces au Québec avec des budgets moins élevés? Il y a d'excellents technos, parce que les techniciens au cinéma québécois sont habitués de travailler avec peu de moyens, quand on compare avec leurs collègues américains. Donc, il y a un côté de talent, il y a un côté de créativité, puis il y a des avantages financiers. Donc, Legault, ce qu'il dit, je ne veux pas modifier les crédits d'impôt, je veux m'assurer que si Netflix a de l'argent, qu'on investisse au Québec, puis là, on peut peut-être faire du cas par cas. Et je rappelle que Québec, contrairement au fédéral, n'a pas eu peur de percevoir la taxe sur Netflix. Alors que Trudeau, on le sait, est complètement à genoux devant les géants. Et les libéraux, là-dessus, ont fait un job impeccable. Itaho est allé chercher l'argent, puis il a dit, écoutez, puis même Netflix a dit, si vous nous le demandez, on va le charger comme ils le font ailleurs. Alors voilà pour le voyage du premier ministre en Californie. Maintenant, ce matin, je vais vous parler des préposés aux bénéficiaires. Là, on a vu en fin de semaine l'incapacité d'avoir un portrait réel, un plan de la part du gouvernement du Québec, la ministre Mécan, concernant comme ça le nombre de préposés aux bénéficiaires. On a annoncé un paquet de mesures, là. Ma collègue Jessica Dumoulin fait des demandes, mais des demandes sans arrêt au bureau de la ministre, qui s'est engagée à nous donner des chiffres. C'est tellement long, c'est tellement compliqué. On va faire un chiffre court, là. En termes d'emploi temps plein, là, il y a des gens à temps partiel, mais quand vous combinez les heures, là, il y a environ 400 quelques préposés aux bénéficiaires de plus sur les 4000 employés de plus, 4500 là, qui ont été embauchés dans le réseau de la santé. Exemple, on a pas loin de 500 infirmières de plus, 316 infirmières auxiliaires. Des travailleurs sociaux, on a rentré 1330 de plus. Personnel de bureau, professionnel de l'administration, 753. Mais pour ce qui est des préposés aux bénéficiaires, c'est 350. La vraie vie, c'est qu'on est bien loin. Puis on nous attendait, il y a une nouvelle vague de primes qui s'en vient et ça devrait augmenter. Mais je vous jure, là, obtenir des chiffres du ministère de la Santé, on est dans des opérations de comptabilité créative pour essayer de nous en dire le moins possible. Dans le Journal de Montréal ce matin, le clan Rizzuto qui revient au pouvoir. Alors, c'est un groupe, semble-t-il, de 5 personnes qui a repris le contrôle du crime organisé à Montréal. Et n'y a pas de surprise. Le fils de Rizzuto, Leonardo, Stefano Sollicito, Casetta chez les motards, Mario Brouillette chez les motards, puis Martin Robert chez les motards également, puis il y a d'autres aussi qui gravitent. J'ai vu des articles, des reportages il n'y a pas si longtemps que là, vous savez, le crime italien, mafia, ces morts là, sont dépassés par les Hells. Et moi, les échos que j'avais, c'était loin d'être le cas. Les Hells ont pris beaucoup de place, prennent beaucoup de place. D'ailleurs, la Sûreté du Québec multiplie les opérations contre les Hells. Mais c'est pas vrai que les Siciliens s'effacent. C'est pas vrai que la mafia a un genou à terre. Vous avez vu les règlements de compte récents. Vous avez vu des têtes d'affiches disparaître. Et c'est comme la mafia, nouveau visage. Puis des gens, donc, dont le fils Rizzuto, qui font partie de cette espèce de conseil d'administration. Alors, les Hells, la mafia, travaillent ensemble. Avant, vous aviez la mafia qui chapeautait. Ils ont développé, avec Vito Rizzuto, disons, des champs d'expertise. Tu sais, tu t'occupes de la distribution, je vais chercher la drogue. Et puis, finalement, les Hells ont profité des guerres internes pour s'établir davantage. Alors, vous avez maintenant leur retour en force, même si je pense qu'ils n'ont jamais vraiment disparu complètement. Alors, c'est dans le Journal de Montréal que vous allez retrouver ça ce matin. L'industrie forestière fait un gain important. Ça, c'est dans le Devoir. Donc, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d'abolir les mesures de protection mises en place sur trois territoires pour protéger le caribou. Alors, ce qui veut dire qu'on va faire des coupes. Et la raison qu'on donne, c'est au nom de la vitalité économique du Québec. Il y a plusieurs spécialistes qui dénoncent ça. Puis vous vous souvenez de la sortie quand même assez étonnante du ministre de l'époque qui avait dit qu'on coupait des arbres. C'était parfait pour augmenter la captation de carbone. Puis c'était un outil pour la lutte des gaz à effet de serre. Ce qui est vrai pour des vieux arbres, peut-être, là, mais c'est pas vrai non plus dans l'absolu. Et ça, ça fait partie souvent du côté un peu mesmer du gouvernement Legault quand on parle environnement. T'sais, le troisième lien devient un avantage parce qu'il y aura des autos électriques éventuellement qui vont circuler. On coupe des arbres, mais vous savez, c'est excellent. T'sais, ce genre de discours-là, qu'on a de la misère à comprendre. Mais bon, alors ça, c'est dans le Devoir que vous retrouvez ça ce matin. Et on revient aussi sur cette polémique qui concerne un étudiant d'école, Robert Gravel, qui a été suspendu il y a 15 jours parce qu'il portait un maquillage ostentatoire, disant s'inspirer du Berle-Noir. Et c'est une école qui est assez controversée. En fait, pas qui est controversée, mais l'objet de débat. L'élève en question, c'était un élève de 4e secondaire, puis il s'inspire, je vous le disais, du Berle-Noir. Puis là, on dit, écoute, c'est correct que des gars puis des filles se maquillent, mais il y a toujours bien des limites, c'est une école. Et là, il y a comme une protestation qui s'est organisée, des étudiants qui trouvent ça injuste. Il faut rappeler qu'à cette école, l'école Robert Gravel, en 2016, on avait décidé de rendre obligatoire le port du soutien-gorge. Et que c'était des profs qui exprimaient un malaise devant des jeunes filles qui arrivaient sans soutien-gorge à l'école. Donc, les adolescentes avaient protesté. Ils avaient installé, je me souviens, on a fait des entrevues là-dessus, leur soutien-gorge dans des casiers, en fait, aux portes de casiers. Et finalement, bon, ben, on avait trouvé une espèce de forme de compromis là-dessus. En France, c'est tout le débat sur le système de retraite. Et à 8h30, heure locale, ce matin, il y avait pour plus de 600 kilomètres d'embouteillage sur les routes. Alors, pas de train, peu de rames de métro qui fonctionnent. On fait la pause, on va vous parler de la soirée des Oliviers qui a couronné Mike Ward hier soir dans quelques instants. Mais d'abord, un coup d'œil sur la 13.